Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Il y a 100 ans, le 5 juin 1921, mourait le dramaturge Georges Feydeau, bien connu des amateurs de théâtre. C'est l'occasion de remonter le temps pour nous plonger dans l'ambiance joyeuse du Paris de la Belle Époque. Drame, vaudeville, opéra, la foule se presse dans les salles de spectacle pour se divertir. Il en reste des monuments emblématiques et des pièces populaires, mais nous avons besoin d'un guide pour évoquer ce monde disparu. Nous sommes donc en compagnie de Jean-Claude Yon, directeur d'études à l'EPHE, spécialiste de l'histoire des spectacles. Bonjour Jean-Claude Yon.
Bonjour. Alors si j'ai bien compris, je serai votre guide dans la ville splendide comme on chante dans la vie parisienne.
Exactement. Et nous allons nous y plonger. Nous associons souvent le nom de Feydeau à celui du théâtre de boulevard. En réalité, c'est un mot qui date plutôt du XXe siècle. En réalité, ce sont plutôt les vaudevilles qui sont un genre nouveau qui apparaît au théâtre. À partir de quand et qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot vaudeville en réalité?
Alors le vaudeville, c'est vraiment le genre dramatique qui domine la production théâtrale au 19e siècle. Il est apparu dès le 18e siècle, mais c'est vraiment le grand genre du 19e siècle parce que à cette époque, comme d'ailleurs encore de nos jours, les gens aiment bien se tourner vers la fiction pour se divertir, pour oublier leurs soucis et pour passer un bon moment. Et donc le 19e siècle est marqué par cette essor du vaudeville, et avec trois grands auteurs, Scribe, Labiche et Feydeau. Chronologiquement, on a oublié un peu Scribe, Labiche est toujours bien joué, mais celui qui est vraiment le roi du vaudeville, le prince du vaudeville, comme l'appelle la presse à cette époque, c'est Georges Feydeau, qui va porter le genre à une perfection absolue, puisque notamment dans ses pièces, et c'est une métaphore qui revient souvent, ces pièces sont un peu comme des mécanismes d'horlogerie extrêmement compliqués, où chaque mot, chaque geste est mis en place pour amener un effet comique, que ce soit à ce moment-là ou un peu plus tard dans la pièce. Et donc c'est lui qui pousse cette logique presque mathématique du vaudeville jusqu'à ses excès les plus... jusqu'à sa perfection plutôt la plus totale, et même ses excès, puisqu'à la fin de sa vie, il va buter sur deux pièces qu'il n'arrivera pas à finir, parce qu'il aura rendu les choses tellement compliquées qu'il ne sera pas capable de terminer ses pièces. Car en effet, il les écrivait au fil de la plume, il n'avait pas tout un plan préconçu. Il posait toute une série de difficultés, et un peu comme un mathématicien qui résout une équation, il cherchait à les résoudre. Et notamment, dans une de ces deux pièces, il fait apparaître un cheval dans un salon. Donc quelque chose de complètement absurde et fou, mais chez Feydeau, il y a aussi beaucoup du théâtre de l'absurde à venir. Et puis, il n'a jamais su quoi faire avec ce cheval, et on peut dire d'une certaine façon que le vaudeville prend fin avec l'irruption de ce cheval dans ce salon bourgeois.
Et qui vient voir ce genre de spectacle? À l'époque, le théâtre est beaucoup plus populaire dans son public qu'il ne l'est aujourd'hui.
Alors on disait tout à l'heure que le terme théâtre de boulevard s'applique plutôt au XXe siècle. En même temps, ce type de répertoire, il est vraiment issu de ce qu'on appelle le boulevard, qui est dans la seconde moitié du XIXe siècle, le centre de la vie parisienne, avec les cafés, les restaurants, les grandes banques, etc. Parce qu'il faut bien sûr avoir de l'argent pour dépenser et pour profiter de cette vie parisienne. Donc on est dans ce Paris des boulevards, en gros de la Bastille à la Madeleine, en passant bien sûr par l'Opéra. Mais si les pièces sont créées sur les boulevards, et les deux grands théâtres de Feydeau sont d'une part le théâtre des Nouveautés, qui est sur les boulevards, et puis aussi le théâtre du Palais Royal, qui est un petit peu plus loin, un peu décalé, mais quand même dans le même quartier. Ensuite, ces pièces qui ont un succès extraordinaire sont tout de suite remontées en province et à l'étranger. Et donc, en fait, d'une certaine façon, le public de Feydeau, c'est l'ensemble du public théâtral, puisque comme vous le laissiez suggérer à juste titre, le théâtre du 19e siècle, c'est pas notre théâtre actuel qui est un peu réservé à une élite intellectuelle ou financière, c'est l'équivalent de la télévision ou d'Internet, c'est-à-dire que tout le monde baigne dans le théâtre, tout le monde a entendu parler des pièces de théâtre, des grands personnages de théâtre, même ceux qui ne vont pas au théâtre connaissent le théâtre, et donc il y a un rayonnement du théâtre absolument extraordinaire qui fait que la France, qui est à l'époque la capitale mondiale du théâtre, Paris est la capitale mondiale du théâtre, un peu comme Hollywood pour le cinéma au XXe siècle, eh bien la France est, comme j'ai pu le dire dans certains de mes travaux, une dramatocratie, une société qui baigne dans le théâtre.
C'est un véritable secteur économique, en fait.
Et c'est en plus un secteur économique très, très important qui fait vivre beaucoup, alors bien sûr, les acteurs, toutes les équipes techniques, tout le luxe qu'il y a autour, puisque le théâtre, notamment, va être un lieu très important pour la publicité, pour le luxe français, pour la mode à la fin du siècle. Les grandes actrices, les actrices de Feydeau, elles portent en scène des costumes prêtés par des grands couturiers. Et donc, il y a vraiment tout l'art de vivre à la française qui est mis en avant. Et d'ailleurs, quand les théâtres ferment dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en 1848, au moment de la Révolution, Victor Hugo va faire un très beau discours à l'Assemblée pour qu'on donne des subventions au théâtre pour leur permettre de rouvrir. Ça nous fait penser un peu à des choses récentes. Et en disant que le théâtre, c'est l'âme de Paris et qu'en plus, c'est véritablement un secteur économique important pour que Paris puisse vivre et tourner, on a besoin des scènes de spectacle.
Alors, dans la pratique, comment cela se passe-t-il ? Est-ce qu'on va au théâtre au même moment qu'aujourd'hui ? Quels sont un peu les rituels du spectateur ?
Alors, on va au théâtre aussi en soirée, même si à partir des années 1870, on a commencé à faire des matinées. Mais donc, vous voyez, c'est assez récent. Avant, le théâtre était vraiment associé à la soirée, au monde de la nuit. Et en fait, on pratique ce qu'on appelle des spectacles coupés, c'est-à-dire qu'on a plusieurs pièces dans une même soirée. Donc une espèce de spectacle non-stop qui ressemble finalement un peu à une soirée télévisée qui peut commencer à 18h et finir à minuit. Et donc avec des pièces qui se suivent et avec exactement comme de nos jours, on a pour parler le terme des programmateurs télé, l'access prime time, les émissions de deuxième partie de soirée. Et bien là, on a des levées de rideaux, des petites pièces qui permettent au public d'arriver. Et puis la grande pièce qui d'ailleurs au fil du siècle se joue de plus en plus tard parce qu'il y a tout un décalage dans l'organisation de la soirée parisienne. Il faut aussi mettre ça en relation avec tous les problèmes. Où est-ce qu'on mange ? Est-ce qu'on mange après le spectacle ou après ? Comment on revient ? Bien évidemment, l'arrivée du métro en 1900 va être un élément très important qui permettra au public de repartir plus facilement chez lui. Donc effectivement, on a une sorte de soirée continue. Et ce qui est très chic, c'est de ne venir que pour un bout du spectacle. Et d'une certaine façon, il n'y a que les provinciaux ou les gens qui ne connaissent rien qui achètent leur billet pour tout voir à la suite. Et notamment quand on appartient au beau monde, qu'on a notamment une loge, on arrive au milieu du spectacle parce qu'on fait claquer la porte de sa loge pour que toute la salle se retourne et comprenne que vous arrivez. Puisque bien évidemment, et ça c'est une grande différence avec ce qui se passe de nos jours, le spectacle il est autant dans la salle que sur scène. Il ne faut pas oublier que notamment la lumière jusqu'à la fin du 19e siècle reste allumée dans la salle, ce qui change tout. Je pense que ceux qui nous écoutent ont déjà dû parfois assister à des spectacles où pour un effet on laissait la lumière dans la salle et ça change complètement le rapport entre la scène et la salle. Et donc là on est dans un moment où on a un double spectacle, ce qui se passe sur scène, ce qui se passe dans la salle. Et si on a par exemple des petites lorgnettes, des jumelles, c'est autant pour voir ce qui se passe, scruter les autres spectateurs que pour regarder les acteurs et les actrices.
Et qu'est-ce qui se passe dans la salle alors ?
Oh ben, il se passe plein de choses. Hein. Et c'est vraiment, il faut avoir l'idée que ces salles de théâtre sont en fait de sorte de vastes salons, hein, des lieux un peu neutres où on peut se rencontrer. Et notamment, pour le public le plus favorisé, on est dans des loges qui sont en fait des espaces privés au sein d'espaces publics. Donc, on peut dans sa loge, et notamment dans les petits salons attenant aux loges. Alors maintenant, ces salons ont beaucoup disparu parce qu'on a voulu agrandir les couloirs. Mais on a encore quelques théâtres où on a ces petits salons. Et donc là, bah, on va régler ses affaires de famille. On va faire des entrevues politiques entre des gens qui ne voudraient pas se rencontrer dans un lieu public et en même temps pas venir les uns chez les autres. On va conclure des mariages. Et puis, on a... Même dans ces salons, parce qu'on peut parfois baisser complètement, tirer les rideaux, ça peut être aussi des lieux de rendez-vous galants. J'ai toujours rêvé de faire une statistique de tout le nombre d'enfants qui ont été conçus dans les théâtres au 19e siècle. C'est d'ailleurs même aussi des endroits où on meurt, parce qu'on a des cas de suicide, de gens qui veulent se suicider de façon spectaculaire devant la foule. Donc c'est vraiment des lieux extrêmement vivant et avec un public beaucoup plus agité, beaucoup plus participatif que de nos jours. Si les acteurs des pièces de Feydeau revenaient jouer devant un public de 2021, je pense qu'ils auraient l'impression d'avoir un public de mort vivant. Parce qu'en fait, au 19e siècle, le public, pour en avoir une idée, je pense qu'il faut aller plutôt maintenant dans les stades de foot. Hein, c'est voilà, un public qui participe, qui parle, qui interpelle les acteurs, et donc ce qui veut dire pour les dramaturges, pour les auteurs, arriver à dompter ce public, a fortiori à un moment où il n'y a pas de sonorisation. Donc c'est aussi le théâtre de cette époque, l'art de la voix. Et pour en revenir à Phédo, ce qui est compliqué, c'est que souvent on a des comptes rendus de presse qui disent que les gens riaient tellement et de façon tellement continue qu'on n'entend plus les acteurs, que ça devient de la pantomime, parce qu'effectivement Phédo a ce don presque magique, en tout cas presque mathématique aussi on pourrait dire, de déclencher les rires. Et donc systématiquement dans les comptes rendus de ces ouvrages, on a toujours deux choses. Un, l'action est impossible à résumer tellement elle est compliquée, et en même temps elle est logique parce qu'on ne peut pas prendre Phédo en défaut, il retombe toujours sur ses pattes. Donc un, l'action est incompréhensible, et deux, de toute façon à un certain moment on n'a plus rien pu suivre parce que les gens riaient tellement fort que ça devenait du cirque, ça devenait de la pantomime.
Alors dans ce contexte très vivant, nous le comprenons, comment un jeune auteur comme Phédo à ses débuts peut-il se faire un nom?
Alors c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'auteurs sur le marché et il y a peu d'élus, donc il y a une lutte féroce. Alors Phédo, il a un avantage, c'est qu'il a un nom qui est déjà célèbre avant même qu'il commence sa carrière, puisque nos auditeurs connaissent sans doute la rue Phédo dans le deuxième arrondissement. Alors je vais peut-être en décevoir certains, elle ne s'appelle pas comme ça à cause de Georges Phédo, mais en fait d'un de ses ancêtres du XVIIIe siècle qui était lieutenant général de la ville de Paris, puisqu'en effet il descend d'une famille de noblesse parisienne qui a dans la police, dans l'administration eu des fonctions importantes sous l'Ancien Régime. Et en plus dans cette salle, à la fin de l'Ancien Régime et jusqu'en 1829, a existé un théâtre qui s'appelait le Théâtre Phédo, qui a eu beaucoup de succès sous la Révolution, qui a accueilli ensuite l'Opéra Comique. Donc Phédo, aller à Phédo, comme on dirait aller à la Comédie Française ou aller à la salle Richelieu, etc., c'était quelque chose de connu. Et son père aussi était lui-même un romancier, ami de Flaubert, un dramaturge. Donc le nom était déjà connu. J'ajoute tout de suite qu'on n'est pas vraiment certain que ce nom, Phédo, le portait de façon légitime, puisque sa mère était... presque plus une courtisane qu'une épouse, qu'elle a eu un nombre d'amants très nombreux, et qu'on pense même peut-être que Phédo était le fils naturel de Napoléon III. Il a fini sa vie de façon très triste dans un sanatorium en étant atteint par une maladie syphilitique qui l'a rendu très malade et un peu fou. Il avait des bouffées de délire. Et là, il se taillait la moustache pour ressembler à Napoléon III avec la barbiche, et il rappelait qu'il était le fils de Napoléon III, mais on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il en est. Donc Phédo commence avec ce capital qui est ce nom, et puis en fait il va, malgré son génie, parce que je crois qu'on peut dire, et c'est toujours important de le redire, parce que les auteurs comiques sont généralement un peu méprisés, mais Phédo est un génie comique et un des plus grands auteurs du théâtre français, à côté de Corneille, de Racine, de Molière, donc il va beaucoup lutter pour se faire connaître. Il va d'ailleurs au début avoir plutôt une carrière d'acteur. Il était très beau garçon. C'est vraiment, alors pour le coup, l'homme, le mondain de la belle époque que vous pouvez imaginer. Il a épousé la fille d'un peintre, Carolus Durand. Donc on a de très beaux portraits de Phédo par Carolus Durand. Mariage malheureusement pour lui. Mais donc au début, il a beaucoup de mal à percer. Et finalement, c'est après toute une série d'échecs qu'à partir grosso modo de 1892-94, il entame une série absolument prodigieuse de grands succès comiques.
Et ce succès ne se démentira jamais ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire ces pièces qui semblent chacune repousser les limites du genre du vaudeville. Je vous ai dit, ces sortes de constructions hyper compliquées, qu'on pourrait d'ailleurs comparer au XXe siècle plutôt à des romans policiers, où là aussi, il y a toute une architecture pour nous faire croire que c'est telle personne qui est coupable plutôt qu'une autre, etc. Et donc, comme il va arriver à une sorte d'impasse à un certain moment, parce qu'il a poussé ça au maximum, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, à la fin de sa vie, il va changer complètement... de style d'écriture, et il va écrire 5 farces conjugales qui sont des petites pièces en un acte et non pas des grands vaudevilles en 3 actes, qui sont des pièces qu'on connaît tous comme On purge bébé, mais ne te promène pas toute nue, etc. Qui en fait sont des variations autour de la question du couple. Et Phédo, qui a été malheureux en ménage, avait une vision très négative du mariage. D'ailleurs, ces pièces, ces 5 farces, il voulait les réunir sous un titre général, il ne l'a pas fait. Il aura appelé ça « Du mariage au divorce ». Vous voyez que le titre n'est pas très optimiste. Et donc, dans ces pièces, il n'y a plus du tout cette construction mécanique parce qu'il n'y a plus d'effet de situation. C'est vraiment la peinture des caractères. Il revient finalement, d'une certaine façon, au théâtre classique et il peint ses personnages et il peint ses disputes conjugales d'une façon magistrale. Et de nos jours, comme ces pièces en plus sont courtes avec peu de personnages, elles sont beaucoup reprises par les troupes amateurs, par les théâtres divers, et elles participent autant que ces grandes pièces comme La Dame de chez Maxime, Coupe-toi d'Amélie, etc. Elles participent autant donc à sa renommée.
Aujourd'hui, qu'est-ce que Paris garde de cette époque-là, peut-être dans le quartier des grands boulevards ?
Alors, je pense que Paris garde déjà un patrimoine architectural de salles magnifique, auquel on ne pense pas forcément. La plus belle, bien sûr, c'est l'opéra, qui n'était pas dédié au vaudeville. Mais j'engage nos auditeurs à aller voir une pièce au Théâtre du Palais Royal. D'une part, je pense qu'ils riront beaucoup au Théâtre des Variétés. Et en même temps, ils admireront ces salles qui sont merveilleuses. Alors, elles sont dans leur jus, elles ont plus ou moins été refaites à la fin du 19e, dans le courant du 20e siècle, mais ça reste un patrimoine merveilleux. Donc on a ces salles qui sont vraiment... Il y a tellement de choses à voir à Paris, mais qui sont quand même aussi un patrimoine auquel on ne pense pas forcément, et qu'on ne peut voir que le soir en allant voir des spectacles. On a ce patrimoine architectural, on a ce patrimoine littéraire, parce que c'est notamment pour les grandes pièces de Feydeau, c'est des pièces qui ont fait le tour du monde, qui ont été adaptées au cinéma, qui exporte une certaine vision de la France. Et puis, je pense aussi que reste quand même un certain esprit parisien qui est très, très, très marqué chez Feydeau, qu'on retrouve aussi un peu dans la rue, dans la façon dont les gens s'expriment, etc. Feydeau, bien sûr, met en scène des personnages bourgeois, mais il y a toujours aussi, bien sûr, dans ses pièces, des domestiques. Donc, le peuple, il est présent à travers ça. Et donc, je pense que le Paris de Feydeau, même par si certains côtés il est très éloigné d'une autre, on en a quand même encore quelque chose quand on se promène dans les rues, et notamment quand on se promène sur les grands boulevards.
Eh bien, un grand merci Jean-Claude Yon de nous avoir évoqué cette figure de Feydeau et ce Paris des spectacles que nous retrouvons avec bonheur dans les semaines qui viennent. Merci, nous fêtons donc, je le rappelle, le centenaire de la disparition de Georges Feydeau, et c'était le 5 juin 1921.
Merci à vous.
À bientôt.